Jean-Claude Ric est avec nous. Nous évoquons ce livre, Un pied noir à Paris, qu'il publie aux ateliers Faut le faire. Bonjour Jean-Claude Ric.
Eh ben bonjour Gérard, content d'être avec vous.
Donc, clin d'œil à Gershwin.
Gershwin. Ben, vous savez, quand j'étais très jeune, j'étais pianiste de jazz. Et comme tous les pianistes de jazz, j'aimais beaucoup la musique de George Gershwin. Et puis je me suis rappelé que quand il est venu à Paris, il a été subjugué par cette ville. Et il est retourné chez lui, il a composé une œuvre magnifique qu'il a intitulée Un Américain à Paris. Alors, je ne savais pas quel titre j'allais donner à mon recueil de souvenirs et d'anecdotes. Et j'ai pensé à lui et donc j'ai intitulé mon livre Un pied noir à Paris, puisque j'ai quitté l'Algérie, mon pays natal, à l'âge de 25 ans. C'est la seule comparaison que je ferai avec Gershwin, hein.
Modeste, modeste, Jean-Claude Ric. Donc, dans ce livre, on revient sur cette enfance, hein, vous l'évoquez, l'Algérie, donc avec ses joies, ses peines, mais surtout, j'ai noté une envie de musique. Hein, les premières notes jouées à l'oreille sur un piano, à l'oreille ou à l'instinct, je ne sais pas trop.
Oui, c'est ma mère, quand elle était jeune fille, elle avait étudié le piano, qui était resté dans un coin. Et puis, quand elle s'est mariée, sa maman lui a dit, bah, tu vas apporter ton piano avec toi. Donc, on avait un grand appartement, puisqu'on était cinq enfants. Et dans une petite chambre, il y avait ce piano, ce vieux piano. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée de tapoter dessus. Et puis, je me suis passionné pour le piano. J'ai appris tout seul à jouer comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans. Et j'avais un oncle qui était comédien, célibataire. Il avait dit à mon père plusieurs fois, il faut lui payer des leçons de piano. Et mon père refusait, non pas par méchanceté, mais parce qu'il n'avait pas d'argent du tout pour payer des leçons de piano. Et c'est mon oncle qui m'a payé les leçons de piano jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai pris mon premier cours donc à l'âge de 14 ans.
Ce serait un peu la chance. Déjà, la première chance, c'est l'affectation militaire. Vous êtes à la musique plutôt qu'à la popote.
Eh ben oui, j'étais très reconnaissant envers cet oncle et qui avait choisi comme pseudonyme Daxili, Marcel Daxili. Et il a fini par avoir des petits rôles dans des films
De
de
Pagnol, je
Marcel
crois,
Pagnol, de
c'est ça.
Marcel Pagnol, oui.
Est-ce que dès cet âge-là, vous avez pensé que la musique serait votre métier, serait votre destin?
Ah bah oui, j'étais tellement passionné par la musique que je ne me voyais pas faire autre chose. Donc, à 16 ans, j'ai passé le BEPS, brevet d'enseignement primaire supérieur, parce qu'à l'époque, le baccalauréat, on n'en entendait même pas parler, hein. Donc j'ai quitté le lycée à 16 ans et mon père m'a fait travailler dans les contributions indirectes pour apporter un petit peu d'argent à la maison.
Tout ça sous, je dirais, à la fois le signe, le double signe de l'amour et de la musique, la rencontre avec Huguette.
Huguette, c'est une très longue histoire. On est né dans la même rue et on est né dans le même immeuble. Donc elle montait très souvent jouer avec mes trois sœurs.
Et elle vous a encouragé aussi dans cette aventure de
Oui,
la
parce
musique.
qu'elle chantait très bien. Elle jouait du piano et puis elle faisait de la danse, elle faisait des claquettes. Elle était très très musicienne. Et puis moi, je l'accompagnais au piano comme ça d'oreille. Et puis à 14 ans, donc j'ai pris mon premier cours de piano et je me suis inscrit aux Beaux-Arts pour prendre des leçons de solfège. Et puis à 16 ans, donc j'ai quitté le lycée et j'ai commencé à prendre des leçons d'harmonie et de contrepoint.
Et les premiers petits contrats dans les restaurants jusqu'à Radio Alger. Je sais que l'histoire est longue. J'essaie de voir un peu comment ça s'est passé, tout cela.
De 16 à 20 ans, je jouais avec un orchestre de musiciens amateurs. Et puis, à 20 ans, j'ai fait mon service militaire, qui durait un an et demi à cette époque. Et j'ai été engagé dans l'armée de l'air. Donc, après les 3 mois de classe, on nous a demandé ce qu'on faisait dans le civil. Je n'ai pas dit que je travaillais dans un bureau. J'ai dit, je suis pianiste. Et donc, on m'a envoyé voir le capitaine de la musique qui me dit, vous jouez de quoi? J'ai dit du piano. Alors elle me dit, mais nous, on fait des défilés, vous n'allez pas défiler avec un piano, vous allez jouer du cor d'harmonie. C'est un cor avec trois pistons. Mais j'ai dit, je ne sais pas en jouer. Eh bien, il m'a signé une permission permanente pour aller au conservatoire d'Alger, qui était un conservatoire d'un niveau très, très supérieur. C'était le deuxième conservatoire de France après Paris. Donc, solfège supérieur obligatoire, classe d'orchestre comme deuxième corps. Et j'ai fait des progrès très rapides avec cet instrument qui m'a passionné. Et au bout de quelques mois, j'ai fini mon service militaire en étant premier corps solo dans la musique de l'heure.
Les choses sont allées, j'ai l'impression, je vais dire très vite, c'est peut-être pas assez vite quand on est quand on les vit. Je te parlais de pianiste à Radio Alger, puis ensuite ensuite Paris, et ensuite les rencontres.
À 22 ans, donc j'étais nouvellement marié, et j'allume le poste de radio. Il n'y avait qu'un seul poste, Radio Alger, et la speakerine, je l'entends dire, nous recherchons un pianiste, sachant lire parfaitement la musique. Il y aura un concours au mois de septembre. Alors je suis allé m'inscrire. Nous étions 12 postulants en tout. Donc on nous appelait à tour de rôle. On avait des épreuves à passer dans le studio d'enregistrement devant un jury. Et finalement, j'ai été choisi pour être pianiste. Et pendant 3 ans, j'étais pianiste à Radio Alger. Et au bout de 3 ans, je suis parti à Paris. Donc, pendant que j'étais pianiste, on faisait deux émissions de radio publique, puisque la télévision n'existait pas. Et tous les artistes qui venaient de France étaient étonnés de trouver un si bon pianiste en Algérie et me donnaient leur carte de visite en me disant que si vous venez à Paris un jour, appelez-nous, on pourra travailler ensemble. Donc 3 ans après, je suis parti à Paris avec une vingtaine de cartes de visite dans ma poche. Et j'appelle tout le monde, évidemment, personne n'était là. La dernière carte de visite, c'était Marie Bizet, qui était une grande vedette à l'époque, mais un petit peu sur le retour.
Voilà, le Marie Bizet, bien, bien connu, l'hôtel des Trois Canards, mais il n'y avait pas que ça, bien sûr.
Voilà l'hôtel des Trois Canards, Marie Bizet, qui me dit, si vous êtes à Paris, venez dîner à la maison. Donc je suis arrivé chez elle, et puis elle m'a gardé pendant 3 mois chez elle, et ma femme m'a rejoint au bout de 3 mois avec le bébé. Voilà, ça a commencé comme
Puis
ça.
les choses s'enchaînent tranquillement. Rencontre avec le manager Raymond Mahmoudi, le manager de Léo Marjane, elle aussi grande vedette, Maurice Chevalier, etc. Enfin, les
Eh
tout.
ben oui, parce que j'ai accompagné Lucien Traillat pendant 3 ans, et nous sommes passés dans un cabaret, et juste avant nous passait un garçon qui s'appelait Jean Siegfried, et nous étions devenus copains. Il me dit, je vais faire un enregistrement chez Decca, et il me dit, est-ce que tu connais un arrangeur? Je dis, oui, moi. Voilà, j'ai fait les arrangements de son disque, qui ont été très très appréciés par le directeur de la maison de disques. Et il m'a dit, c'est formidable vos arrangements. Je vais vous demander de faire le prochain disque de Maurice Chevalier. Voilà, j'ai fait le disque de Maurice Chevalier. Quand le disque est sorti, arrangement et direction d'orchestre Jean-Claude Ric, tout le monde m'a demandé de faire les arrangements de son disque. Joséphine Baker, Jean Sablon, toutes les vedettes de l'époque.
Les arrangements, c'est arrivé comment? Parce qu'en général, on a envie d'être devant, en haut de l'affiche, pas son nom simplement à la fin. L'arrangeur, je veux pas dire qu'on ne le connaît pas, mais la plupart du temps, il est très anonyme.
Ah ben, je faisais beaucoup l'arrangement en Algérie pour l'orchestre de Radio Alger.
Mais je pense qu'à Paris, on a envie d'être sur la scène, devenir une vedette, comme disait Aznavour, en haut de l'affiche.
Eh bien, vous savez, être l'arrangeur des grandes vedettes, c'est pas mal. C'est formidable parce que quand on fait les arrangements pour des grandes vedettes, les grandes vedettes passent à la télévision et ils nous demandent de diriger l'orchestre. Ils passent à l'Olympia, ils me demandent de diriger l'orchestre. Donc, vraiment, j'avais un métier public passionnant.
Oui, et à la télévision, c'est vrai qu'on se souvient des noms des grands orchestres, puisqu'à la télévision, dans les émissions de variété, en direct, il y avait les grands orchestres.
Ah ben oui, moi j'ai commencé à 28 ans, a dirigé Sport Dimanche en direct avec Raymond Marcillac. Ensuite, avec Albert Elsner, achetant le retraite de bois. Ensuite, Raymond Lefebvre m'a demandé de le remplacer pendant 2 ans chez Guy Lux. Ensuite, Maritime Carpentier m'a demandé de diriger l'orchestre pendant 30 ans avec, en alternance avec d'autres chefs d'orchestre. Et j'ai terminé avec Champs-Élysées de Michel Drucker pendant 5 ans, tous les samedis en direct. C'était formidable.
Alors il y a des choses étonnantes et curieuses, bien évidemment, on ne va pas raconter toutes les anecdotes et tout le livre, mais j'ai noté, parce que c'est assez significatif aussi, la bise de Céline Dion qui vous a fait rougir, et je pense que vous en rougissez encore quand on l'évoque.
Ah, oui, Céline Dion. C'est-à-dire qu'elle est passée dans une émission de Michel Drucker. Donc, tous les artistes qui passaient, donc je faisais les arrangements, et Céline Dion devait m'envoyer une maquette de La Vie Rose qu'elle devait chanter. Et puis, 3 jours avant l'émission, j'avais toujours pas de maquette. Alors, j'avais téléphoné à son mari au Canada pour lui dire, monsieur, est-ce que Céline joue du piano? Il m'a dit, non, non, pas du tout. J'ai dit, parce que je pensais qu'elle allait s'accompagner au piano. Ah, elle me dit, non, non, il faut l'orchestre, il faut un grand orchestre pour la vie en rose. J'ai dit, écoutez, si dans un quart d'heure, je n'ai pas la tonalité dans laquelle elle va chanter la vie en rose, je crains bien qu'elle chantera a cappella. Alors, un quart d'heure après, il m'appelle, il me dit, voilà. Elle va chanter en sol majeur. Vous faites l'arrangement qu'il vous plaira de faire, et elle se pliera à votre arrangement. Donc 3 jours après, elle est arrivée. Elle a entendu mon arrangement. Elle a chanté dessus. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et elle est venue. Elle était tellement contente qu'elle m'a embrassée. J'étais rouge de confusion, bien sûr.
Alors bien sûr, il y a vous l'évoquiez tout à l'heure, les grands orchestres, mais il y a aussi les orchestres des grands événements. Alors je ne vais pas les citer tous, mais il y a par exemple le Festival de la chanson méditerranéenne à Barcelone, je crois que c'est 7 fois, l'Orchestre de l'Opéra de Paris, le London Symphonic Orchestra, tout ça, est-ce qu'à un moment ou un autre, ça fait pas un peu tourner la tête?
Ah non, bah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais tellement passionné par la musique, ma rencontre avec des musiciens fabuleux de tous ces grands orchestres. Je n'avais pas du tout la grossette. D'ailleurs, ceux qui achèteront mon livre pourront lire la quatrième de couverture qui a été écrite par Alain Sanders, qui pourra mieux. Et vous allez comprendre beaucoup de choses sur moi. Voilà. Moi, je vous conseille de lire mon livre.
Il y a quelque chose d'assez étonnant parce que, alors je dois dire que je l'ai redécouvert en lisant votre livre, c'est la mise en symphonie, le monde symphonique de Sardou.
Ah ben oui, c'est la première fois que ça se faisait. Voilà. On avait demandé à Michel Sardou de chanter la Marseillaise pour le 14 juillet à Strasbourg. Et son directeur artistique, Jacques Revaux, avait dit c'est d'accord à condition que Jean-Claude Ric l'accompagne avec un orchestre symphonique. Donc nous sommes partis à Strasbourg à ce moment-là, et le directeur d'Europe Numéro 1 me dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous jouer quelque chose avant la Marseillaise avec l'orchestre symphonique? Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Je ne veux pas vous jouer la cinquième symphonie de Beethoven, ce n'était pas du tout ce que je fais habituellement. Alors, Jacques Revaux me dit, tu pourrais jouer des chansons de Sardou transformées en symphonique. Voilà. Donc, l'idée est partie de là. On a donc fait l'enregistrement qui s'est vendu à 200 000 exemplaires. Et un an après, on a fait encore un deuxième album de Sardou symphonique avec le London Symphony. Ensuite, j'ai fait Jacques Brel en symphonique avec l'orchestre symphonique de Radio Luxembourg, et Charles Aznavour, qui venait souvent dîner chez moi, écoute, je lui offre mes 3 disques symphoniques, qui me téléphone une semaine après, et me dit, je suis resté à Paris, J'avais des amis tous les soirs à la maison, on écoutait Tennessee jusqu'à 2 h du matin. Tu ne voudrais pas faire un Charles Aznavour symphonique? Mais j'ai dit oui, avec plaisir. Voilà, c'est ce qui a été fait. Et nous avons donné un concert au Châtelet avec l'orchestre symphonique en première partie. Et en deuxième partie, Charles est venu chanter sur scène avec nous.
Et tous les artistes vous réclamaient. Alors on peut en citer plein, hein. Vous évoquiez Aznavour, mais il y a aussi Sheila, Jim Manson, Josephine Baker, je crois qu'on l'a parlé, on l'a dit tout à l'heure, Lynn Renault, Fernandel, Marie Laforêt, Joe Dassin, Hallyday, Paul Naref. Et puis alors il y a les solides, j'allais dire, c'est Mireille Mathieu pendant 30 ans et Enrico, qui signe d'ailleurs la préface du livre.
Ah ben oui, Enrico Macias, on s'est connu, on ne se connaissait pas, on s'est connu en 1900, à la fin de 1962. Et on ne s'est plus lâché pendant 40 ans. Donc j'ai fait tous les arrangements de ces disques. Et puis j'ai composé des chansons pour lui aussi. Les filles de mon pays et les gens du Nord notamment. J'en ai fait plein d'autres.
De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui?
Oh, le plus fier, je n'en sais rien. D'être encore marié avec Huguette. On s'est marié en 1952, donc vous pouvez calculer le nombre d'années. J'ai deux garçons qui ont fait leurs études au Conservatoire de Paris, qui ont des premiers prix de solfège, d'harmonie, de contrepoint. Il y en a un qui s'appelle Nicolas Macri, puisque c'est son nom véritable, qui est premier Grand Prix de Rome. Donc je suis très fier de mes deux garçons et de ma femme présente, toujours à mes côtés. Et j'ai une seule petite fille que nous considérons comme notre fille. Elle a 33 ans. Elle est bac plus 5. Elle est instite dans un collège. Voilà.
Voilà, votre vie finalement, c'est une grande symphonie réussie.
Exactement. Eh ben, écoutez, je crois que vous avez trouvé la formule.
Alors Jean-Claude Ric, le dernier chapitre s'intitule La vie est belle, mais je dirais que 144 pages pour ce livre, c'est trop court.
Merci, merci. Mais je sais pas. Je crois que je ne pouvais pas écrire d'autres chapitres. Je pense que j'ai été le plus direct possible dans ces quelques pages, voilà. Et la vie est belle, c'est vrai, la vie est belle. Et le ciel, enfin, je dis le ciel, mais c'est le bon Dieu, parce que je crois vraiment au bon Dieu, je crois au destin qu'il m'a offert un destin magnifique. Et j'ai passé des années magnifiques dans la musique.
Merci beaucoup Jean-Claude Ric. Donc je rappelle le titre de ce livre, Un pied noir à Paris, préface donc d'Enrico Macias, et c'est publié aux éditions de l'atelier Faut le faire, en toute simplicité et en toute gentillesse.
C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Voilà, et j'espère que ce livre plaira à beaucoup de personnes. Voilà.
Ben, je pense qu'il étonnera beaucoup de personnes parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, c'est une forme de jukebox un petit peu quand on le lit parce qu'on entend, on réentend bien évidemment tous les grands succès qui ont fait ces artistes. Et derrière l'artiste, eh bien, il y a aussi les musiciens, les arrangeurs, il y a plein de gens. Et il ne faut pas les
Merci mille
oublier.
fois.
Merci à vous.
Je vous remercie mille fois.
Merci à vous.